Hein, tout de même, hein, 42 800 000 Français consomment de l'alcool et pas seulement donc des majeurs, environ 2 Français sur 3, hein, donc, et certains en abusent puisque plus d'un Français sur 5, 22% exactement, dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandés par Santé publique France, par exemple, pas plus de 2 verres par jour. Et pas tous les jours. Alors, on est en plein dans le dry January, on le disait, pas d'alcool pendant un mois, ponctuel.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de consommation sans risque. Vous avez rappelé des repères de consommation, mais c'est des repères de consommation à moindre risque. Il y a toujours un risque. Et le cancer, en particulier, est proportionnel à la quantité consommée. Alors, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, on est obligé d'être prudent. Et... ce qu'il y a, cette opération, nous, on l'appelle défi de janvier. Hein,
parce que défi de janvier, on va arrêter avec le globalisme.
Allez,
le défi de janvier.
Pour être un peu positif. Et, alors, ce n'est pas du tout une opération moralisatrice, normative. Justement, c'est volontariste. Hein, on le fait ou pas. Hein, et on voit bien ici que tout le monde ne le fait pas. On le fait ou pas. Mais c'est une façon de se confronter à toutes les occasions de boire. Et de voir que certaines pourraient être évitées quand même. On voit qu'on boit énormément. Les conséquences sanitaires sont colossales. Les conséquences
plus de 40 000 morts par an en France.
On ne le répétera jamais assez, mais c'est aussi des maladies, c'est des handicaps, c'est des accidents, c'est des violences. Je rappelle que l'alcool est impliqué dans la moitié des féminicides. C'est pas... Donc il y a quand même intérêt à prendre conscience. Et le fait de, en janvier... de résister à toutes les tentations, ça nous confronte justement à cette pression sociale. Et alors, ce qu'on a constaté, c'est que en février, quand on recommence,
alors est-ce que les gens consomment encore plus ?
Non, quand on recommence, on consomme moins. À un moindre niveau. Et ça, on a justement l'expérience des Anglais qui nous montre qu'on consomme beaucoup moins quand on l'a fait en janvier. Donc c'est plutôt favorable pour la santé. Les repères de consommation à moindre risque. Mais il y a un risque, moindre risque, mais risque quand même. D'accord. Et en particulier pour le cancer, il y a de nombreux cancers qui sont favorisés par l'alcool. On sait depuis quelques décennies, depuis une ou deux décennies, que ça favorise le cancer du sein, ce qu'on ne savait pas avant. Hein. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on ne l'enseignait pas. Aujourd'hui, on le sait. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des risques, toujours, quand on consomme de l'alcool.
De faire ou de ne pas faire Dry January, en tout cas d'en parler, parce que ça permet de s'interroger ensemble sur notre consommation d'alcool. En fait, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, on a toujours un ami ou un membre de notre famille qui le fait. Et du coup, on se dit, c'est vrai que moi, en fait, est-ce que je suis capable demain soir d'aller à un dîner ? Est-ce que je suis capable de prendre l'apéro avec un ami et de boire un seul verre ? Est-ce que je suis capable de ne pas boire du tout ? Est-ce que je suis vraiment, est-ce que ce défi, je peux le relever ? Et je pense que c'est en ça que c'est intéressant, cette opération. C'est de s'interroger sur comment on est face à l'alcool et d'en discuter ensemble.
Mais vous avez une expérience singulière, parce que votre papa était alcoolique.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et vous êtes vous-même dans une relation très ambivalente à l'alcool.
Ambivalente. Et du coup, pour mon expérience à moi, je l'ai fait l'année dernière et je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule envie à la fin du mois de janvier, c'était de fêter ça.
Donc ça rejoint ce que disait...
J'ai des amis qui l'ont fait. C'est pour ça que je parle de janvier modéré cette année, parce que je trouve que c'est plus intéressant de pouvoir contrôler sa consommation et de se dire ce soir, c'est qu'un verre et c'est agréable de pouvoir y arriver.
Pas si on va fêter. Moi, je ne vais pas la fêter, la fête de Dry January, parce que je ne l'aurais pas fait avant.
Bien sûr.
Mais il n'empêche, on parle de la consommation des jeunes et on voit les évolutions d'habitude de consommation des jeunes. Le vin, c'est le symbole même... C'est comme ça, en tout cas, qu'on aime à le présenter, de la convivialité et du vivre ensemble. Or, sortir, voir des gens, c'est pas midi et soir tous les jours de la semaine, même dans mon cas.
Ça dépend de la sociabilité des gens.
Ça dépend de la sociabilité des gens, mais ça m'arrive, je suis à Paris pendant quelques jours, je vois des gens, certes, mais je vais rentrer à la maison, je vais en voir moins, mais je ne vais pas boire du vin à tous les repas, tous les jours non plus. La consommation modérée, et ça ne m'empêchera pas de boire du vin quand je vais partager ce soir
cette consommation.
On a perdu, sur les 30 dernières années, en moyenne, 1 litre par habitant et par an. On est passé de 70 litres par habitant à 40. Et les projections à 10 ans nous disent qu'on va descendre entre 25 et 30 litres par habitant. Donc, moi...
Vous parlez du vin, je parle de l'alcool en général.
Et donc, moi, je parle du vin... Et par rapport à la dynamique de consommation du vin, alors est-ce qu'il peut y avoir une exception culturelle pour le vin ?
C'est compliqué, effectivement. Ça fait partie de notre vie sociale. Mais ceci dit, ça évolue. Ça évolue grandement. Nous, on a été surpris par les sondages cette année. On avait fait un sondage avec BVA qui montrait que 33% des gens adultes voulaient relever le défi de janvier, et 30% probablement. Ça fait 63% des gens qui ont une opinion favorable. C'est, on peut l'interpréter comme ça. Et donc, je veux dire, cette attitude par rapport à l'alcool qui fait partie obligatoirement de la convivialité, ça change. Bon, on sait qu'on peut avoir quand même des relations sympathiques, avoir de l'humour sans forcément boire de l'alcool. On peut rencontrer des amis et avoir un fou rire autour d'un café aussi. Je veux dire, la convivialité, c'est pas obligatoirement de l'alcool.
Si on prend le vin, c'est surtout associé au dîner, au repas qu'on fait en famille, au grand dîner. Sur la table, il y a plein de bouteilles de vin. Et effectivement, du coup, je pense que dans certaines familles, c'est pas du tout associé à de l'alcool et c'est pas du tout associé à tout ce qui peut arriver derrière, à savoir des maladies et même des décès et tout ce que ça engendre pour les proches. Le vin, c'est un peu comme un monument pour nous en France. C'est un peu associé comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et du coup, on a tendance un peu à oublier que c'est effectivement de l'alcool et qu'il y a des risques.
Et cette culture admirable du vin français, vous êtes un lobbyiste à votre façon ?
Ben oui.
Ah oui ? Et vous l'assumez ?
Ben oui. Mais c'est quoi être lobbyiste ? Oui. Qui n'est pas lobbyiste ici ? Chaque fois qu'on doit défendre un sujet qui nous préoccupe.
Oui. Donc vous êtes au service de votre corporation, des emplois ?
Ben oui, et de mon métier d'abord. Je suis vigneron à la base. Et mon intérêt quand même, c'est qu'il continue à se boire un peu de vin quelque part en France ou dans le monde tous les jours. Pour continuer à exercer mon métier.
Et donc vous êtes conscient des dégâts que ça... Vous êtes lobbyiste, donc ça veut dire que vous êtes conscient aussi des dégâts que ça peut produire. Quand on est lobbyiste...
Je suis lobbyiste en lien avec ce que j'ai dit précédemment, avec le fait de mettre en œuvre une consommation modérée du vin. Je n'ai pas envie d'être lobbyiste pour dire aux gens « buvez absolument ». J'ai envie que les gens prennent... aussi un peu de plaisir et partage un moment autour d'un verre de vin. J'ai pas dit qu'il fallait immédiatement vider la bouteille. C'est un travail de fond que nous sommes en train de mener et que nous avons à mener dans les années à venir pour permettre, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la consommation du vin va baisser inexorablement. Donc on est obligé de transformer notre approche professionnelle du produit que nous élaborons pour pouvoir continuer à intéresser des consommateurs.
Donc il y a des vignerons qui vont faire du vin sans alcool bientôt, c'est possible.
Mais bien sûr.
D'accord.
Et je fais partie des vignerons qui travaillent pour faire aujourd'hui des vins avec moins d'alcool que ce que nous produisions précédemment. Et j'ai des collègues qui sont en train de s'essayer à produire des vins sans alcool. Oui, complètement. Et c'est complètement en phase avec le fait que demain, si on consomme moins, mais si on veut garder un vignoble en place, parce que c'est ce qui donne un peu une belle gueule, excusez-moi le mot, à la nature et au paysage en France. Si on veut continuer à garder des vignes, eh bien, il va falloir adapter le produit que nous élaborons à partir des raisins pour répondre à ces nouvelles attentes.
Je se dis un lobbyiste de son activité, c'est son rôle. Et ce qui est gênant, c'est quand le secteur économique se mêle de santé. Parce qu'à mon avis, ils ne sont pas légitimes qu'ils défendent leur métier, leur savoir-faire. Bien entendu, c'est leur rôle. Mais quand ils se mêlent de santé en particulier, bon, apparemment, on va en parler, quand ils se mêlent de censurer des campagnes...
Alors, elle ne me dérange pas trop, celle sur ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer, mais elle peut exister que si, avant, il y a eu effectivement des spots de prévention pour dire que l'alcool tue, comme les cigarettes tuent, en fait. Pourquoi sur un paquet de cigarettes, c'est marqué « fumer tue » et pourquoi sur une bouteille d'alcool, on n'arrive pas à mettre que « boire tue »
Ah, vous voulez dire qu'il faudrait éventuellement, sur les bouteilles, reprendre la fameuse étiquette des paquets de cigarettes.
En termes de maladies, on peut aussi dire ce que ça engendre pour les proches, encore une fois. Moi, je me mets dans une expérience à moi.
L'avertissement.
Oui.
Pourquoi ça vous choquerait ?
Oui, ça nous choquerait. Mais pourquoi ? C'est parce que le visuel des bouteilles qu'on peut avoir et l'histoire qu'on raconte à travers nos étiquettes de vin, à travers nos cépages, nos marques, ne sont pas en phase. Ce n'est pas un produit industriel. La cigarette est un produit industriel.
La conséquence est la même, c'est que ça tue, malgré tout.
Oui, certes, mais il n'empêche que... Là, on est sur un aspect, patrimonial, quelque part. Alors, c'est sans doute difficile aussi de faire un amalgame entre un produit industriel et un produit familial et d'une marque, d'un domaine qui est propre à une famille.
L'État a un devoir de laisser une information pertinente, transparente et juste scientifiquement. Et c'est propre des campagnes de consommation. Alors, je rappelle, vous avez parlé des campagnes qui ont été interdites. Oui. Le défi de janvier, il a été porté par les associations parce que, justement, l'État s'est désengagé à la demande des viticulteurs. Donc, avoir une information transparente. Vous avez parlé du pictogramme. Bon, pictogramme, il y a 8000 handicaps par an. Hein, à la naissance, parce qu'il y a des consommations. Ça peut être des handicaps graves, mais ça peut être des handicaps qui passent un peu inaperçus et qui donnent des troubles de l'apprentissage, hein, des troubles des relations. Et donc, on va obérer toute une vie entière par des gens qui perdront des chances d'emblée. Mais c'est quoi interdit de vendre aux mineurs ? Ça n'est absolument pas respecté. Je veux dire, c'est important, non pas uniquement sur le plan symbolique, mais parce que le cerveau des jeunes n'est pas à maturation. C'est un levier de l'achat et de la consommation. Alors, le sénateur Jérôme Mier, dont vous avez parlé, il avait proposé un prix minimum par unité d'alcool. Prix minimum, ça veut dire que, justement, on touche à la fois les jeunes, parce qu'ils ont un moindre pouvoir d'achat, et puis ceux qui boivent beaucoup. Ça ne toucherait pas les vins de prestige, etc., qui sont de toute façon au-dessus du prix minimum. Je trouvais que c'était une mesure intelligente et subtile.
Si on prend l'Europe, la Grèce est le pays le plus en retard en termes. Si on prend sur 20, je crois qu'ils ont 5 sur 20. Nous, on a 13 et la Norvège a 17. Et c'est avéré que, en Norvège, en Finlande et au Danemark, les jeunes boivent beaucoup moins que chez nous. Mais vraiment, c'est des chiffres qui sont. Je ne les ai plus en tête, mais il y a une différence qui est abyssale. Et aussi parce que ces pays scandinaves, ils ont mis en place des formations et des préventions dès l'école. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, au collège, on nous parle beaucoup de la drogue. C'est pas bien de fumer, il faut pas fumer, ça provoque plein de choses. Jamais, à aucun moment, j'ai eu un accès à me dire l'alcool peut tuer. Je pense que si, c'est aussi important de faire intervenir des gens en milieu scolaire pour en parler.
Je ne pourrais pas tomber effectivement dans cet excès-là. L'histoire du prix minimum de l'alcool, ce qui nous gêne, c'est une façon de sélectionner les consommateurs. Est-ce que parce que j'ai les moyens, je pourrais continuer à boire
Mais l'interdit.
Ou en acheter en tout cas et en consommer. Alors que si j'ai moins de moyens, ça nous gêne un peu parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation où le pouvoir d'achat, pour le coup, et la situation économique et l'inflation et tout, pèsent énormément sur le pouvoir d'achat des ménages. Et on le voit mécaniquement, on le voit dans les chiffres de vente du vin qui se casse la figure de nos jours. Et donc, j'allais dire, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche en plus.
Eh bien, écoutez,
s'il y a de l'alcoolisme, pour le coup, ce n'est pas lié à l'excès de consommation de vin, on en saurait quelque chose.